Bonsoir Marie.
Bonsoir Lucille.
Vincent Carry, qui est directeur entre autres des Nuits Sonores à Lyon, a publié lundi dans Libération une tribune qui interpelle le gouvernement sur la situation tragique que vivent les acteurs de la nuit.
Vincent Carry, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous rappelez dans votre tribune que le milieu de la nuit ne relève pas du ministère de la Culture, mais du ministère de l'Intérieur. Alors vous écrivez, je cite, qu'il s'agit d'une erreur historique et d'une immense injustice.
Oui, bah c'est évidemment une erreur. En fait, cette réaction, elle vient du fait que Roselyne Bachelot elle-même, ministre de la Culture, a tenu à insister à plusieurs reprises sur le fait que les clubs, la vie nocturne, etc. n'étaient pas sous sa responsabilité, étaient sous celle, en effet, du ministère de l'Intérieur. Et quand on regarde l'histoire culturelle que représente la scène de la musique électronique française et mondiale depuis 30 ans, puisqu'on parle pas d'une histoire qui est jeune maintenant, elle est apparue à la fin des années 80, au début des années 90, et elle a permis à la France d'avoir une galaxie d'artistes. On peut évidemment penser à Laurent Garnier qui a lui-même écrit une lettre à Roselyne Bachelot, on peut penser au Daft Punk, on peut penser à Missy Hacker, Jennifer Cardini. Là je parle plutôt des pionniers, mais ça s'est traduit dans des tonnes de nouvelles générations, et puis des festivals, des lieux culturels, tout un paysage culturel qui s'est constitué et qui, de mon point de vue, appartient de plein droit à l'espace culturel. Il est absolument certain, aujourd'hui, considérer que cet espace-là, avec l'ensemble de ses artistes, est à relayer aux marges de l'espace culturel, c'est une erreur. C'est une erreur d'analyse, mais c'est aussi une certaine sorte d'agression vis-à-vis de l'ensemble des gens qui se sont investis finalement dans cette scène culturelle depuis très longtemps pour la faire vivre, parce qu'au-delà de son rôle culturel, artistique, qui est extrêmement important et qui est, qui fait peu de débats dans sa place historique, on a vu par exemple une exposition rétrospective à la Philharmonie de Paris sous l'autorité de Jean-Yves Leloup par exemple, pour célébrer cette culture-là, donc je pense qu'il n'y a pas de débat sur ce point, mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui est encore plus triste. C'est que c'est un manque de perception du rôle social et démocratique de l'espace de la nuit. Parce qu'aujourd'hui, comme je le rappelais dans cette tribune à Libé, je crois que c'est un des endroits prioritaires pour la jeunesse, en particulier, pour exprimer son envie de constitution citoyenne, son envie de débat, de contradiction, et qu'elle l'exprime à cet endroit, à travers tout un tas de sujets qui traversent aujourd'hui l'espace de notre société en général, mais en particulier qui vient se cristalliser dans l'espace de la nuit.
Oui, alors justement, exclure le milieu de la nuit du spectacle vivant, c'est selon vous exclure tout un pan de la jeunesse du débat public finalement.
Oui, en tout cas, il est absolument évident que cette jeunesse-là ne se retrouve pas dans les lieux consacrés du pouvoir, ni dans les lieux traditionnels de débat public pour s'exprimer. En revanche, il est certain, et là j'inclus pas seulement bien sûr les clubs, mais on va dire d'une façon générale, l'espace de la nuit et les lieux de convivialité, les lieux de partage qui peuvent être aussi bien finalement les bistrots que les tiers-lieux, que les clubs, que les festivals, etc. Tout cet espace-là est aujourd'hui devenu un espace de démocratie. On voit bien que c'est pas du tout un hasard si un festival comme Nuit Sonore a créé un espace de débat comme European Lab il y a déjà plus de 10 ans, si un lieu comme Grand Contrôle à Paris, qui est un lieu d'abord culturel, laisse une place considérable au débat public et à une certaine forme d'effervescence démocratique. Et à ces endroits-là, on retrouve une jeunesse qui a 20 ans, 22, 25 ans, etc., qui elle, avait complètement déserté le débat public, qui n'était plus engagée, qui souvent ne vote pas, qui est dans une relation de défiance avec tout ce qui représente le pouvoir ou en tout cas l'institution de près ou de loin. Et celle-ci, il faut impérativement, enfin il me semble que c'est de l'intérêt général, que de la réconcilier avec le débat public et de la réengager dans un processus de contradiction positive et en tout cas assumée et perçue positivement par tout le monde. Donc là, on sent à l'inverse qu'il y a une sorte de peur qui est principalement, de mon point de vue d'ailleurs, une sorte de méconnaissance, mais qui est hallucinante parce que j'allais dire qu'on est reproché à Jacques Toubon ou à Philippe Douste-Blazy à l'époque de pas connaître le secteur de la musique électronique. Bon, passons. Mais là, ça fait quand même 30 ans. On parle d'un secteur qui est archibalisé. D'ailleurs, plusieurs personnes me l'ont fait remarquer en retour, mais c'est presque hallucinant qu'on soit obligé de faire cette tribune aujourd'hui. Ça paraît invraisemblable, en fait.
Laurent Garnier, DJ, compositeur et producteur de musique électronique, a publié aussi une lettre à l'attention de la ministre de la Culture. Il parle désormais de spectacle mort et non plus de spectacle vivant.
Alors pensez-vous, Vincent Carry, que l'institution et même l'opinion publique dénigrent ou méconnaissent le rayonnement international de la culture électronique ?
Oui, ben ça, j'allais dire, c'est presque pas très grave. C'est aussi une forme d'injustice, c'est certain, puisque malheureusement, j'allais dire, sur la scène française, celle qui s'est exportée dans le monde depuis 30 ans, si on enlève la scène électronique, on va se retrouver avec un bilan franchement rachitique, hein, puisque ce sont bien évidemment les Daft, bien évidemment Justice, bien évidemment Laurent Garnier, bien évidemment Philips Dart, Cassius, etc., qui ont fait ce travail planétaire, qui ont fait rayonner pour le coup la culture française, si tant est que ce soit un enjeu. Hein. Moi, c'est pas, je m'endors pas le soir en priant pour que la culture française rayonne dans le monde. Hein. C'est pas l'alpha et l'oméga de ma vision culturelle, mais il n'empêche que, puisqu'un certain nombre de nos amis au ministère de la Culture et un peu à droite à gauche clament quotidiennement notre espèce d'exception culturelle française, bah, à cet endroit-là, je pense qu'il valait mieux s'appuyer sur la scène électronique que sur la scène pop, rock ou chanson française, qui a quand même été totalement inexistante à l'export. Il suffit de regarder les chiffres de la SACEM pour le savoir.
Quelles sont les mesures urgentes qui doivent être prises selon vous dans ce contexte qui devient de plus en plus serré?
Bah, je pense que la première des mesures, c'est de dire à un moment où un secteur est à genoux, économiquement, socialement, où la perte de sens est totale, puisque il y a à la fois des gens qui ne peuvent pas faire leur métier, qui ne peuvent pas ouvrir ces lieux et ces espaces de vie, qui sont extrêmement importants, tout en ayant conscience, parce qu'on n'a pas affaire à des gens qui sont inconséquents ou irresponsables, ils ont parfaitement conscience des enjeux de l'épidémie, ça me paraît évident, en tout cas c'est ce que j'entends autour de moi. Mais au moment où ils sont, où la situation les met à genoux, je pense que les achever psychologiquement en les renvoyant systématiquement dans les bras du ministère de l'Intérieur et en disant « Messieurs, mesdames, vous ne faites pas partie de l'espace culturel », je trouve que c'est dramatique. Et je trouve que c'est symboliquement catastrophique. Voilà, ça veut dire qu'on est encore une fois, et c'est aussi le sens de l'appel des indépendants qu'avec quelques copains et copines on a lancé en mars dernier, c'est de dire « Dans cette situation, arrêtons le mépris, ne réinstillons pas en permanence cette espèce de vision culturelle de classe qui laisse entendre qu'il y a d'un côté le patrimoine, l'art lyrique, le château de Villers-Cotterêts, Versailles et l'Opéra de Paris, dans lesquels on va investir des centaines de millions d'euros de ce qui s'appelle quand même un plan de relance. Hein. Donc pour moi, c'est plutôt un plan de consécration du passé, en oubliant méthodiquement la jeunesse, l'innovation, l'émergence, etc., etc. Et la nuit, d'une certaine façon, fait partie de cette espèce de bagage qu'on fout sur le côté, sur un strapontin, en disant, bah oui, on va avoir au mieux un peu de condescendance, quelques millions d'euros par-ci, par-là, pour situer 5 millions d'euros de complément en 2021 pour les 4000 festivals français, contre 81 millions d'euros pour l'Opéra de Paris. Donc voilà ce que c'est le plan de relance. Et à cet endroit-là, nous, enfin moi en tout cas, ma tribune sur la nuit, n'avait pas vocation à dire donner de l'argent à la nuit. Je pense qu'il y a des structures comme Technopole ou comme Lumi, etc., qui font leur job à cet endroit-là. Moi, c'est pas du tout mon enjeu. Mon enjeu, c'était de dire, s'il vous plaît, un peu de respect, un peu de bienveillance pour ce secteur. Ça veut dire, oui, le ministère de la Culture reconnaît que l'espace culturel de la nuit fait bien partie de la famille et bien représente dignement le paysage culturel français, premièrement. Deuxièmement, on arrête de stigmatiser toute cette population comme si c'était une bande d'irresponsables, inconséquents, hédonistes et qui en ont rien à foutre des autres. Parce que c'est exactement le contraire. Derrière ça, c'est aussi des centaines d'emplois, des milliers d'emplois. C'est, on le sait, un impact économique sur les territoires qui est très important pour les lieux culturels. Qu'est-ce qui attire aujourd'hui du monde sur les territoires? C'est les festivals, c'est les lieux culturels contemporains. C'est pas que les opéras et les auditoriums, c'est aussi Grande Contrôle à Paris, Darwin à Bordeaux, Tropisme à Montpellier, Le Sucre à Lyon, c'est aussi des dizaines de festivals, de lieux qui font vivre les territoires, qui s'y investissent, et pas simplement dans le cœur de Paris, partout, dans toute la France.
Merci beaucoup Vincent Carry.